19h.
Parole publique. L'interview de Grégoire Barbet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parole publique sur Radio Tonique. Je suis ce soir en compagnie du député UDC Genevois Thomas Blaisy, il est aussi pharmacien. Bonsoir Thomas Blaisy.
Bonsoir Grégoire Barbet.
Thomas Blaisy, votre parti a récemment distribué dans les boîtes aux lettres d'environ 1 million de ménages un tout ménage traitant de la question écologique. Dans ce tout ménage, le président de votre parti, Albert Rushdie, dit que le changement climatique a lieu depuis de millions d'années. Est-ce qu'on peut dire que votre parti est climato très sceptique ?
Bon, il y a toujours une différence entre le parti zurichois et puis les partis romands. On voit bien que à Genève, en particulier, on a lancé un projet de loi qui prévoit d'électriser les bus des TPG. C'est un budget conséquent, mais ça va dans la voie de la mobilité douce et donc de l'écologie. Donc je pense qu'il y a toujours avec la sarine une petite barrière qui fait que peut-être on a une sensibilité un peu plus grande en Suisse romande par rapport à l'écologie.
D'accord, mais vous êtes d'accord quand même avec votre président de parti ou pas du tout sur cette question? Quand il dit que le changement climatique a lieu depuis des millions d'années, il sous-entend quand même que finalement le changement climatique dont on parle aujourd'hui, celui dont on parle comme étant une urgence, n'est pas en fait finalement si différent de ce qu'on connaît depuis toujours.
Écoutez, moi j'ai une formation scientifique et en tant que scientifique, j'aime bien pour ce genre de problématiques avoir un certain nombre de chiffres, un certain nombre d'expériences, un certain recul. Donc je suppose que si M. Rushdie dit ça dans le journal de l'UDC, c'est que probablement il l'a fait de cette manière-là, mais n'ayant pas, en tout cas à titre personnel, pu consulter ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est pertinent de comparer la situation actuelle et puis les problèmes écologiques actuels, puisque l'empreinte en fait industrielle qu'on a eue, elle date surtout depuis 1900, enfin à peu près. Donc il y a quand même une grosse accélération depuis. Donc je pense que certainement ils en ont tenu compte, mais alors il faut probablement poser la question à M. Rushdie pour savoir sur quelle base il se base pour pouvoir déclarer ça.
Et on sent quand même qu'on est en pleine élection fédérale. D'ailleurs, vous êtes candidat, vous, au Conseil national. Dans ce tout ménage, l'UDC dit aussi que, bon, le problème, quand même, c'est l'immigration, quoi. Est-ce que vraiment, on peut dire que le problème du climat en Suisse, c'est les étrangers qui arrivent chez nous?
Bon, c'est toujours la même chose. Si on décide de dichotomiser les problèmes climatiques par pays, il est clair que un déplacement de population, par définition, va augmenter l'empreinte écologique que va pouvoir cette population dans le pays qui l'accueille. Donc ça me semble être une certitude, puisque le plus gros élément de pollution, effectivement, est l'activité humaine. Donc à partir de là, si vous augmentez la population de matière artificielle, vous augmentez inévitablement l'impact climatique de manière artificielle également. Maintenant, est-ce qu'on peut seulement le voir, si on le voit qu'à l'aune de la Suisse, alors oui, ça serait assez juste de dire que les personnes qu'on a accueillies ont une empreinte écologique. Maintenant, si on prend à l'échelle mondiale, ces personnes qui sont en Suisse auront diminué leur impact écologique dans leur propre pays. Et je pense qu'en fait, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est assez difficile de réduire l'impact écologique d'un pays. Du reste, dans le document qu'a envoyé dans l'édition spéciale de l'UDC, vous avez aussi une comparaison d'autres pays comme la Chine avec les productions de carbone et autres, et où on voit que si on réfléchit d'une manière mondiale, les efforts qu'on peut faire ici ont un impact global qui malheureusement est assez faible. Donc tant qu'on n'aura pas une conscience écologique globale, c'est-à-dire ou en tout cas un raisonnement écologique à l'échelle de la planète, on n'aura de toute façon pas d'évolution. Maintenant, dire que les personnes qui sont arrivées en Suisse ont eu un impact, ça me semble être une évidence en soi. Après, est-ce que sur l'impact global ça change quelque chose? J'en suis pas sûr.
Donc pour vous, le climat ne s'arrête pas aux frontières?
Non, je crois que le problème climatique ne s'arrête pas aux frontières. On a vu avec Tchernobyl que les radiations non plus. Donc je pense que non, pour l'impact de l'activité humaine sur la planète, si on doit la réformer, il est très clair qu'il va falloir qu'on revoie notre façon de vivre. Pour un certain nombre d'entre nous, ça implique quand même de réduire notre confort. Et donc, je pense que toute la difficulté est là. Finalement, on se retrouve par rapport au climat face aussi à une forme d'égoïsme de notre part par rapport au confort auquel on a été habitué jusqu'à maintenant.
Mais vous êtes un peu, Thomas Blaisier, vous êtes capable en général d'être un peu un UDC atypique, parce que parfois vous prenez des positions qui sont un peu contraires à votre parti. Est-ce que là, l'UDC, selon vous, ne rate pas un tournant dans la politique fédérale en faisant finalement preuve d'une certaine réticence à considérer les questions climatiques comme étant des questions enfin, politiques importantes? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment, en lisant ce journal, que quelque part, il trouve des excuses pour dire, bon, finalement, nous, en Suisse, on peut rien faire, donc faisons rien, et puis parlons de l'immigration, parce que finalement, c'est un thème qui est porteur pour nous, et puis les autres questions, on n'a pas trop envie d'en parler. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, quand même?
Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'en fait, dans le journal de l'UDC, ils ont dichotomisé les thématiques essentiellement vis-à-vis de la Suisse. Donc, si on doit avoir une critique par rapport à cette édition spéciale, c'est effectivement de savoir quelle est la valeur sur l'impact climatique des conséquences qui seraient uniquement pour la Suisse dans quelque chose qui est totalement global. Donc là, effectivement, on peut dire que peut-être c'est tendancieux de réduire à la Suisse l'impact de l'empreinte humaine sur l'écologie. Mais par contre, je trouve que cette édition spéciale analyse plusieurs éléments, entre autres l'impact d'autres pays, et ainsi de suite, remet les choses en perspective. Et je trouve de ce point de vue-là, elle est assez intéressante. Maintenant, c'est vrai que la communication outre-Sarine ou des Suisses allemands n'est pas en général la communication que j'utilise moi-même. Mais parce que voilà, je pense que les Suisses allemands sont peut-être plus sensibles aux affiches colorées qu'on peut avoir au niveau suisse, et puis au niveau roman, elles sont un peu moins perçues. Du reste, on voit bien qu'au niveau des résultats, en général en Suisse romande, nos résultats sont un petit peu moins bons qu'en Suisse alémanique. Et puis c'est pour ça que je pense qu'il y a un discours que les romands entendent pas de la même façon que les Suisses allemands.
C'est intéressant ce que vous dites. Donc vous pensez que finalement les sections en Suisse romande ont peut-être trop tendance à calquer la communication de la présidence zurichoise, finalement?
Je pense que s'il y a une chance d'évolution pour une aile au sein de l'UDC qui ne soit pas l'aile zurichoise, mais une aile un peu plus modérée, comme pouvait être Adolphe Ogi, c'est clairement en Suisse romande qu'elle doit prendre corps, parce que c'est là où elle a le plus de chances d'avoir un soutien suffisamment massif pour que ça puisse induire un changement de politique vers, disons, plus modérée de l'UDC zurichoise. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a quand même ce problème migratoire est quand même un problème qui impacte les gens, c'est un problème qui les inquiète. Le confort économique de tout un chacun a réduit, donc quelque part, le fait qu'on accueille des personnes et puis qu'on leur fournisse le nécessaire pour vivre, ce qui est juste ce qu'on doit faire quand les gens sont chez nous, ça crée des réactions d'hostilité ou des réactions d'agressivité dans notre population dont on n'a pas forcément besoin. Et puis maintenant, je pense aussi que l'asile a un vrai sens en Suisse et que quelque part, le fait qu'on ait mis dans l'asile des personnes qui viennent en Suisse pour des raisons économiques et non pas pour des raisons humanitaires,
Mais
ça fausse un peu le jeu de la perception de l'asile. Et je crois que l'UDC n'est pas contre l'asile humanitaire, il est contre l'asile économique. Maintenant,
il n'y a pas d'asile économique formellement, puisque l'asile est octroyé à des personnes qui répondent à des critères spécifiquement inscrits dans le droit international. Ça, c'est un. Comment dire, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les partis type UDC ou Front National en France. Mais quelle est la preuve qu'aujourd'hui on accepte au statut de réfugié des gens en Suisse au nom de l'asile, quoi?
alors
Pour
qu'on
des
a
raisons économiques, donc.
non mais je veux dire on a des personnes qui viennent en Suisse, comme on a pu avoir un contingent qui était très important quand il y a eu la guerre du Kosovo. Ces gens-là clairement relèvent de l'asile pour moi. Quand par contre il y a des difficultés économiques dans un pays ou qu'on accueille des contingents de personnes alors que ces pays ne sont pas en guerre, alors là
Mais
la
quel exemple de pays qu'on a accepté en tant que réfugié?
Typiquement, on a eu le problème de la communauté, sauf erreur, c'était la Somalie, ou je sais plus exactement quelle était la communauté concernée. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être pas juste. Mais on a un certain nombre de pays où les conditions politiques sont mauvaises, mais où le pays n'est pas en guerre. Et donc, en fait, on a quand même besoin que tout le monde ne parte pas de ces pays pour venir chez nous, parce qu'on a besoin que les personnes qu'on a pu former, par exemple en Suisse, aillent ensuite dans leur pays pour les réformer, pour améliorer les instances politiques. Et c'est ce retour, finalement, qui nous permet d'espérer un enrichissement via la Suisse. Pour moi, c'est ça la définition de l'asile. Des personnes qui viennent en asile en Suisse, qui finalement y restent, y construisent leur vie, et puis finalement deviennent suisses par la suite, certes, ça augmente la population suisse, ça peut être une richesse aussi bien culturelle que professionnelle, ça ne l'est pas toujours. On peut voir que ça crée aussi des problèmes parce qu'il y a des franges de cette population, parce qu'ils n'ont peut-être pas connu autre chose, n'ont pas forcément une acclimatation au système suisse qui est facile. Et donc, à partir de là, c'est vrai que ça crée parfois des tensions.
Mais je veux revenir quand même sur cette notion de parce que en fait l'UDC fait souvent cette notion de migrants économiques et de réfugiés. Pourquoi en fait aujourd'hui l'UDC constamment fait la différence entre réfugiés et migrants économiques en disant que finalement ceux qui obtiennent l'asile ce sont des migrants économiques qui n'ont pas vocation à rester en Suisse. Vous dites qu'il y a des pays qui sont acceptés au statut de réfugié, enfin des gens de certains pays qui sont acceptés au statut de réfugié. Ceux-ci l'obtiennent sur des conditions aussi qui sont définies par le droit international. On a restreint plutôt l'asile que le contraire aujourd'hui. Comment on peut dire qu'on accepte trop de gens aujourd'hui ? C'est compliqué, non ?
Bah, la difficulté, c'est justement ça. La difficulté, c'est que vous le dites vous-même, ces gens restent. Et pour nous, la définition de l'asile, c'est pas de rester, c'est de venir en Suisse, de prendre tout ce qu'il y a à apprendre en termes d'éducation, en termes de formation, et ensuite de pouvoir retourner au pays pour pouvoir transmettre ça, et puis que globalement, par un jeu de vases communicants, les pays se portent mieux, qu'il y ait moins de mouvements de population. De toute façon, écologiquement, c'est vrai que les mouvements de population, c'est probablement les choses qui ont le plus d'impact sur les lieux où les personnes s'installent. On a la chance en Suisse d'avoir un système qui par définition incorpore bien les gens dans notre société. Ça a toujours bien fonctionné. La Suisse a toujours un taux d'immigration qui était très supérieur à l'Europe, avec un taux à 15-16%. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 28%. Alors quand vous voyez qu'en France, vous avez un Front National qui caracole à 30% ou 28% à certaines élections, avec un taux migratoire de 10%, et qu'en Suisse, vous avez un UDC qu'on peut trouver excessif parfois, mais qui est relativement raisonnable avec un taux de 28%, il y a peut-être un moment où il y aura un trop. Et le trop, ça risque de faire des tensions au niveau suisse, ça risque de prétériter aussi les conditions de travail, ça risque de prétériter aussi, ça fait de la concurrence, ça risque de prétériter nos salaires. Tout ça, en fait, ça crée un vivier d'inquiétude qui fait... Et puis finalement, pourquoi que la Suisse? Je veux dire, si vous regardez, nous, on n'a pas été faire la guerre en Syrie, sauf erreur. On a pourtant eu des contingents assez importants. Regardez les contingents qui ont été pris en France, ils sont ridicules. Donc à un moment.
Oui, mais ça, c'est un problème qui est international.
Mais c'est tout.
Vous avez raison, mais c'est un problème qui est international.
Mais comme justement c'est un problème international, on ne peut pas avoir la France qui dit à la Suisse au travers de l'Europe, vous devez prendre un contingent de temps, alors que même n'en ont pas pris la moitié.
Mais mais comme je le disais avant, c'est la politique internationale. Est-ce que c'est pas parce que la France ne fait pas sa part, la Suisse ne doit pas faire la sienne? C'est toujours une question un peu délicate quand même, non?
Ben la question délicate, c'est que si on était, j'avais espéré que en 2019, on espérait tous avoir des voitures volantes, qu'il n'y avait plus de guerre dans le monde, et puis que les choses fonctionnaient bien. Et on se rend compte qu'en fait, c'est exactement le contraire. La pression sur la classe moyenne est énorme, les mouvements migratoires sont grands. Objectivement, je veux dire, on a aussi, là je parle pas de guerre, mais il y a des pays qui ont été dévastés avec la déforestation et le reste, les conditions de vie des populations sont difficiles, ça a un impact global sur le climat. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où si on a envie de faire de la politique, il faut faire de la politique là où on peut la faire, c'est-à-dire dans son pays, donc dans un précaré, et c'est vrai qu'on essaie de préserver ce précaré. Et si on regarde dans l'ensemble, l'UDC est à 30% depuis un bon moment, la Suisse se porte relativement bien et en tout cas nettement mieux que ses voisins. Donc je pense pas qu'on puisse dire que l'UDC n'a pas participé à la richesse de la Suisse. Alors certes, peut-être d'une manière un peu exclusive ou en s'excluant un peu ou en se renfermant, mais parce que quelque part on est un pays souverain. Et je pense que tant qu'on est un pays souverain, c'est aussi ça que défend l'UDC, on peut pas seulement... On ne peut pas accepter tout le monde, on n'a pas la possibilité de le faire. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que les volumes migratoires en Suisse ont été assez importants.
Ils ont baissé ces dernières années, quoi.
Oui, mais proportionnellement à notre population, on reste très supérieur au reste de l'Europe. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des donneurs de leçons qui nous disent qu'on doit accepter des gens qui ont des difficultés, et ça, on peut l'entendre. Mais à ce moment-là, il faut qu'on se répartisse la charge et qu'on répartisse l'effort. Et puis ensuite, il faut aussi que les pays qui vont déclencher des guerres à l'étranger pour garantir leurs intérêts économiques, que ce soit le pétrole ou autre chose, hein, parce que ça a existé depuis que l'homme est homme, je vois pas pourquoi la Suisse doit payer les pots cassés de ces politiques-là. Il y a un moment donné où, alors qu'on y contribue et qu'on y participe, oui, mais qu'au moins les pays qui ont déclenché les problèmes y participent à un niveau supérieur.
Thomas Blaisier, vous disiez que l'UDC est à 30%, ce qui est effectivement le cas, mais est-ce que vous croyez qu'avec le contexte actuel, on voit que la question climatique est un élément central des élections qui se sont passées en Europe récemment, en France aussi? Est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que l'UDC pourrait perdre des plumes, justement parce que sa position sur ces questions-là est un peu plus, on va dire, iconoclaste?
Alors j'attends de voir, parce que quand on gagne des conseils nationaux au Tessin, on n'en parle pas beaucoup. Puis quand on en perd à Berne, alors là par contre on en parle beaucoup. Donc j'attends d'avoir le résultat global et puis après on pourra en tirer des leçons ou des
Mais pour
conclusions.
vous, la stratégie actuelle de votre parti, c'est la bonne? D'avoir aussi en Suisse romande, d'avoir, on va dire, ressuscité Yvan Perrin et Oskar Freisinger, c'est la bonne manière de relancer l'UDC pour ces élections?
Oh, je peux éventuellement en penser quelque chose, mais même en pensant quelque chose, j'ai aucun impact là-dessus. Je pense que c'est des questions qui conviennent pas de poser à la direction suisse. Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de m'occuper des thématiques genevoises. J'aime bien.
Mais vous êtes candidat aux élections fédérales.
Oui, c'est juste, mais je pense qu'a priori, j'ai plutôt un profil qui serait un profil apte à être un profil de modération au sein du groupe national UDC. Il est clair que je ne ferais pas partie de la branche droite dure de l'UDC. Je m'intéresserais, si je devais aller au Conseil national, aux thématiques qui m'intéressent, c'est-à-dire la santé, le rapport avec les caisses maladies, parce que ça, c'est devenu totalement insupportable dans le pays.
Et on va en
Je veux
parler.
dire les vrais frais de la santé, je veux dire la répartition des coûts entre les différents professionnels de la santé. La pauvreté aussi qui se développe chez nous, enfin, il y a des thèmes sociaux aussi qui m'intéressent. Et puis, en dehors de tout ça, aussi, pour moi, ce qui est très important, c'est la souveraineté de notre pays. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut être tenté de vouloir rentrer en Europe ou de signer un accord cadre, mais si c'est pour accepter toutes les règles législatives de l'Union européenne, en tout cas les lois cadres de l'Union européenne, à un moment donné, il est clair que c'est aussi mentir aux gens de leur dire qu'ils ne vont pas perdre de salaire. Quand on entend les autres partis partir des accords cadres en disant on va sauver le pays, alors oui, on va sauver l'économie, on va sauver le plus gros. Mais par contre, les personnes de la classe moyenne ou les salaires suisses, ils vont clairement, à un moment donné, gentiment s'aligner avec l'Europe. La concurrence fera que c'est inévitable. Dans ma pharmacie, je reçois à l'heure actuelle par semaine des offres de pharmaciens espagnols, de pharmaciens italiens, de pharmaciens français, de pharmaciens écossais, de pharmaciens irlandais. Je suppose que si ça allait si bien que ça, ces personnes-là se précipiteraient pas tous pour travailler dans une pharmacie en Suisse. Et s'ils le
Mais
font,
vous ne les engagez pas.
alors moi, je ne les engage pas. À l'heure actuelle, depuis 10 ans que je suis propriétaire, j'ai engagé une semaine, une fois, un ressortissant, 2 semaines, un ressortissant français, parce que je ne trouvais personne pour mes vacances. Donc, je n'ai pas eu le choix de faire autrement, parce qu'on produit relativement peu de pharmaciens en Suisse. Mais en dehors de cette période-là où je trouvais personne, j'ai toujours pris effectivement des gens qui sortaient de Genève ou de Suisse. On a fait beaucoup de choses. On a essayé de recadrer de requalifier des personnes qui étaient à l'AI avec un certain succès. On a essayé de remettre le pied à l'étrier à des gens qui étaient au chômage depuis longtemps, puis qui n'avaient pas pratiqué leur profession. Et donc, voilà.
Thomas Blaisier, on va continuer cette conversation. On va juste s'absenter quelques instants pour une page musicale. À
À
tout de
tout à
suite.
l'heure.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.
I'm going. No one knows me. If I breathe real slow, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
Parole publique. L'interview de Grégoire Barbet.
Rebonsoir à toutes et à tous. Je suis toujours en compagnie de Thomas Blaisy, député UDC Genevois et pharmacien. Thomas Blaisy, vous avez très envie, je le sens, de parler de la santé. C'est un peu votre thème de prédilection. Santé Suisse, la fêtière des assureurs maladie en Suisse, a annoncé hier que les primes allaient sûrement augmenter encore l'année prochaine de 3%. Et elle propose notamment, comme manière de réduire les coûts de la santé, de faire baisser le prix des médicaments. Vous qui êtes pharmacien, ça vous inspire quoi, cette déclaration ?
Bah, disons que je trouve qu'il y a un moment donné où ces déclarations de fanfaronnade, parce que finalement c'est de la fanfaronnade. Les gens peuvent pas forcément comprendre. Les prix des médicaments, on va être clair, le prix des médicaments en Suisse est cher. La moyenne du prix des médicaments en Suisse, donc la moyenne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus ou peut y avoir moins, mais la moyenne est à 57%. Par rapport à l'Europe, on est 57% plus cher sur nos médicaments. Mais sur le budget global de la santé, les pays européens ont un impact des médicaments de 16 à 18% sur leur politique de la santé.
Et chez nous, c'est 9%.
Et en Suisse, c'est, je crois qu'on est aujourd'hui à 10%, mais depuis les années 2000, on oscille entre 8,9 et 10,1%. Donc on a des médicaments chers en Suisse, mais qui impactent globalement peu l'ensemble. Quand on a une situation comme ça, ça veut dire que les autres prestataires de soins, les autres secteurs de la santé sont beaucoup plus chers que ce qui se fait en Europe. Et en l'occurrence, et ce n'est pas du tout un tac, là, mes amis médecins, mais en l'occurrence, c'est une réalité. Quand vous facturez, quand vous avez les médecins par rapport au niveau européen, on est à peu près à 500% plus cher. Les hôpitaux, on n'en parle même pas. Donc, si on veut baisser le prix des médicaments, ça veut dire qu'on va travailler finalement sur le 10% de l'enveloppe. Donc, en admettant qu'on baisse le prix des médicaments de moitié, on aurait baissé le prix de 5%. Et on annonce une augmentation des primes de 3%. Vous ne la verrez même pas passer, la baisse de prix des médicaments. Et juste pour vous le dire encore, en 2000, on était un système qui était le même que le système européen. Donc, l'impact des médicaments était à cette époque-là à 16-17%. Puis on a introduit les taxes en découplant le revenu du pharmacien du médicament lui-même, c'est-à-dire en mettant des taxes qui sont très impopulaires. Mais ces taxes impopulaires ont fait à peu près 300 millions d'économies par année. C'était en 2000. Si vous cumulez l'économie qui a été faite, on ne l'a jamais vue sur nos primes. Donc si vous baissez le prix des médicaments, et moi à titre personnel et en tant que pharmacien, j'ai aucun problème à imaginer qu'on baisse le prix des médicaments. Sauf que le problème, c'est que c'est une mesure inutile en termes d'impact sur les primes d'assurance. Et puis surtout, on évite d'avoir une vraie réflexion sur les autres professions. Donc si on voulait vraiment faire un effort, on déciderait qu'on veut baisser les frais de la santé de 10%. Et alors à ce moment-là, on prendrait 1% chez les pharmaciens, on prendrait, je pense, 4 ou 5% chez les médecins, et puis on prendrait le reste dans les hôpitaux. Parce que ces secteurs-là sont ceux qui impactent beaucoup plus.
Mais justement, toujours sur les médicaments, il y a aussi des conseils nationaux qui proposent l'ouverture à l'importation parallèle de médicaments, sauf erreur, hein, de payer, par exemple en France, etc., pour contrer justement les prix de certains médicaments en Suisse. Est-ce que ça vous semble aussi acceptable ?
Ah, mais moi, je pense même qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut autoriser les. Alors, si on autorise, parce que les caisses maladies autorisent le remboursement des médicaments français ou européens à l'heure actuelle pour des raisons de coût. Mais à ce moment-là, il faut laisser le pharmacien commander ses médicaments en France. Moi, si on laisse un pharmacien commander ses médicaments à un grossiste français, il n'y a aucun problème à fournir des médicaments au prix français, puisque la marge qui sera dégagée permettra de tourner. Évidemment, la conséquence suivante sera que le salaire des employés va baisser en pharmacie, alors que par ailleurs, ce n'est pas ceux qui ont forcément la plus élevée dans le secteur de la santé. Mais ça, c'est envisageable. Mais par contre, qu'on dise que les habitants de la Suisse peuvent aller acheter leurs médicaments en France et qu'ils sont remboursés, mais que le pharmacien, lui, ne peut pas les commander directement, alors ça, en termes d'écologie, dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même pas véritablement un progrès. Et puis, moi, je serais prêt à aller plus loin. À ce moment-là, j'aimerais qu'on me laisse aller consulter mon médecin en France à 23 euros au lieu de 180 francs et qu'il soit remboursé par les caisses maladies. Mieux, j'aimerais qu'on me laisse aller prendre mon assurance maladie, je sais pas, en Norvège ou en Écosse, enfin là où elle est le meilleur marché, et puis que je puisse aussi la faire valoir en Suisse. Pourquoi finalement le médicament? Comme on l'a vu, c'est celui qui a un impact le plus faible. Donc oui, bien sûr, il faut faire un effort dessus, mais faisons un effort global. Sinon, on n'aura aucun impact sur les prix. Et puis, autre chose sur les médicaments qui est quand même très intéressant, c'est que si les médicaments sont chers en Suisse, c'est aussi parce que la Suisse sert de vitrine pour les médicaments de l'industrie suisse. Et c'est plus facile de vendre des médicaments à l'étranger moins cher quand c'est un médicament qui est vendu cher sur le marché suisse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, la Suisse aussi est un îlot de cherté. Et ça, je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on combatte. Parce que finalement, on a des salaires relativement confortables et même inexplicables pour nos voisins français. Je veux dire, quand vous avez un salaire de 3000 ou 3200 francs à Genève, vous savez pas comment vous allez faire pour vivre. En France, c'est quasiment un salaire d'ingénieur à l'heure actuelle. Donc, c'est un problème sur lequel il y a énormément de curseurs, il y a des réglages fins à trouver, et je pense que les politiciens qui imaginent en tapant sur le secteur de médicaments, oui, ils s'offrent une pub gratuite, c'est très bien pour leur image politique, mais en termes d'efficacité, si c'est la seule mesure, ça ne sert absolument à rien. Par contre, ça permet de ne pas se fâcher avec des gens qui représentent beaucoup de pouvoir et beaucoup de voix. Comme vous le voyez, moi, je n'ai pas ce problème-là.
Et justement, aujourd'hui, Thomas Blaisy, le Conseil national a refusé une initiative, enfin un postulat, je crois, sauf erreur, demandant plus de transparence envers les lobbies au niveau de l'Assemblée fédérale. Est-ce que là aussi, dans le secteur de la santé, on n'a pas un vrai problème de la place des lobbies au niveau fédéral dans les parlements?
Si, moi je pense que le système... Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a des lobbies, mais les gens sont censés les annoncer. C'est-à-dire que...
Censés.
Oui, alors ils sont censés les annoncer, c'est-à-dire qu'en fait, les gens doivent les annoncer, on va être plus clair. Je dis censés parce que c'est ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne le font pas tous, c'est pour ça que j'ai employé ce mot. Mais, et donc l'avantage, c'est qu'on sait que le député ou le conseil national Y, eh ben, il travaille en partie pour la firme machin, parce que la firme machin, elle lui, voilà. Mais ça, au moins, ça permet à la population de savoir que si elle n'aime pas la firme ou l'entreprise ou le secteur que défend ce politicien, elle peut ne plus voter pour lui. Si on supprimait, entre guillemets, cette façon de faire, je pense que ça se ferait toujours, sauf qu'on ne le saurait plus. Donc la population, si elle vote pour un député ou un conseil national qui soutient l'industrie pharmaceutique et puis qu'elle trouve que les médicaments sont trop chers, et ben elle votera pas pour lui parce qu'elle le sait. Si elle le sait plus, ben elle votera peut-être pour lui parce qu'il est sympathique, mais elle saura pas vraiment ce qu'il fait. Donc c'est à double tranchant. À titre personnel, je pense que ce qui est le plus important, c'est la possibilité d'identification des influences que le politicien a accepté ou pour lequel il est éventuellement rémunéré. Donc en clair, qu'on s'assure et qu'on a un contrôle de la bonne déclaration de ces lobbies dans les liens d'intérêt de ces politiciens, pour que la population puisse choisir en connaissance de cause.
Et je vais revenir un peu sur votre parti, et vous allez me trouver taquin, mais quand même l'UDC au niveau fédéral, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont des positions très sociales, enfin en tout cas sur la question des primes maladies. Ils ont plutôt tendance à défendre les positions des assureurs. On va pas non plus jouer avec les mots.
Mais je crois qu'il y a eu une période où mon parti avait pas mal de représentants dans les caisses maladies.
Oui, c'est toujours le cas avec Heinz Brands notamment.
Je crois que ça s'est beaucoup réduit. Je crois pas qu'on soit les plus représentés aujourd'hui. Non, je crois pas.
À vérifier, alors, ouais.
Je pense que ça mériterait d'être vérifié parce que je crois qu'on est, je crois que justement, il y a une prise de distance. Je crois qu'à Genève, mon collègue et ami Monsieur Floret a déposé un texte qui demandait des réductions fiscales potentielles en fonction des revenus par rapport à justement à ce prix élevé des caisses maladie. Non, je crois qu'il y a véritablement une prise de conscience au niveau du décès aussi, qu'au niveau du système des caisses maladie, ça fonctionne. Pas. En tout cas, c'est trop cher et puis surtout, on a cette opacité. Maintenant, de l'autre côté, on a aussi à l'UDC des gens qui ont, une réticence impossible à franchir quant à une étatisation, quant à une caisse publique. Et c'est vrai qu'on n'a pas 50 solutions. C'est soit on continue le système, on le contrôle, on l'améliore. Et ça, il y a un bon nombre d'UDC qui sont pour ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus pour une caisse publique comme moi parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, ça finit par devenir une tâche régalienne quand vos primes d'assurance maladie sont aussi chères que votre loyer.
Mais Thomas Blaisy, c'est intéressant comme discussion parce que, bon, déjà, de nouveau, encore une fois, vous vous exprimez un peu hein, une position qui est unique un peu dans votre parti. Mais à ce niveau-là, au niveau de l'assurance maladie, est-ce qu'on ne devrait pas passer une étape supérieure et se dire finalement, c'est la loi sur l'assurance maladie qui a un peu plus de 20 ans maintenant, qui est mauvaise. On devrait essayer de redéfinir une loi sur la santé. Et là, on revoit les choses un peu en gros et on repense le système.
Mais l'État a une responsabilité énorme, et y compris à Genève, sur nos primes d'assurance maladie. Il faut bien savoir que quand il s'agit d'hospitalisation, par exemple, si quelqu'un est hospitalisé, sauf erreur de ma part, le 55% de la prise en charge, elle est prise par le canton.
Exact.
D'accord. Donc ça veut dire qu'en clair, la caisse maladie, donc la prime, n'est impactée que de 45%. Si par contre vous êtes en ambulatoire et que vous rentrez chez vous, là c'est 100% les primes d'assurance maladie. Qu'a fait l'hôpital cantonal à Genève ? Ben, il a développé l'ambulatoire. Qu'ont fait les cliniques privées ? Elles ont développé de l'ambulatoire. Donc le surdéveloppement de l'ambulatoire fait qu'inévitablement l'impact s'est réduit sur l'État et a augmenté sur les caisses maladies.
Mais à ce niveau-là, justement, les caisses maladies font beaucoup pression et demandent à ce que les cantons payent leur part aussi dans l'ambulatoire. Il y a des deals qui sont visiblement en train de se négocier. Ce serait par exemple 75% pour les caisses maladies dans chacun des domaines, donc ambulatoire et stationnaire. Est-ce que là, ça vous paraîtrait acceptable comme deal ?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que le citoyen sera toujours le larron de ce genre d'histoire, parce qu'au final, si vous faites plus d'ambulatoires, eh ben, il paiera au travers de ses primes d'assurance maladie, et puis si vous faites moins d'ambulatoires, eh ben, il paiera au travers de ses impôts que l'État paiera ensuite.
Donc, c'est un jeu de vases communicants, c'est le problème aussi de ce système.
Bah, c'est le problème en fait qu'ont tous les pays avec leur système de santé.
Sauf qu'en Suisse, on a une prime par tête. Ce qui est quand même différent des autres pays.
Bon, la comparaison est difficile, mais si on prend la sécurité sociale en France, tout le monde aime à dire que c'est une catastrophe parce qu'elle est immensément déficitaire. Mais c'est normal, c'est la sécurité sociale. Elle ne fait pas que la santé, elle ne fait pas que les remboursements médicaux. Si on rajoutait dans l'enveloppe, entre guillemets, santé, on faisait une sorte d'enveloppe santé sociale, bah, c'est clair que nos résultats seraient tout aussi mauvais et tout aussi déficitaires parce que par définition, le social l'est.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Parce que si finalement, en fait, le système actuel, la malle, c'est un système où on ne fait qu'augmenter les primes et les mesurettes qu'on arrive à trouver en accord avec les partenaires sociaux, enfin les assureurs, les médecins, les pharmaciens et compagnie, n'ont pas de vrais impacts, comment on fait pour changer le système finalement ?
Mais le système en lui-même n'est pas que mauvais. Je veux dire, là, nous, on a une discussion qui est particulièrement intéressante sur les frais de la santé, et puis on se demande comment faire pour réduire ces frais, pour réduire les primes. Si le problème était aussi simple que ça, on y arriverait probablement.
Oui.
Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette forme de constitution de réserve très particulière aux caisses maladies avec ces transferts d'assurés, et puis cette opacité au niveau de la réalité des coûts et de la transcription dans nos primes qu'on n'a jamais réussi à voir. Typiquement, M. Poggia, ministre de la Santé à Genève, a fait toute sa campagne politique sur cette thématique. Et on se rend compte que malheureusement, au niveau cantonal, et que ce soit lui, que ce soit M. Maillard ou autre, hein, ils y ont essayé, et petit à petit, ils s'y sont tous cassés les dents. Donc,
mais c'est une grosse boîte noire, finalement,
les seuls qui ont la main là-dessus, c'est les parlementaires nationaux. C'est effectivement, pour moi, c'est la motivation pour me présenter à ces élections, parce qu'effectivement, c'est mon domaine de compétence et c'est là où j'aimerais pouvoir effectivement entendre une voix à l'UDC qui serait peut-être un petit peu différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Ça, ça m'intéresserait. Mais ce dont on a besoin, c'est simplement d'avoir la réalité de qu'est-ce que dépensent les Suisses chaque année en frais de la santé, en excluant les frais administratifs des caisses, alors les gestions des réserves, et puis qu'on ait vraiment le chiffre. Et je suis sûr qu'on serait très étonné.
Ouais, parce que comment expliquer finalement que, bon, ces dernières années, on a eu des hausses de 5% environ en Suisse romande, et d'un coup, une année, on n'a quasiment pas de hausse, et celle d'après, on repasse à une hausse un peu plus modérée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu de... Ouais, on va oser le mot, mais de maquillage finalement.
Ah, mais il n'y a pas de doute. Ouais. Alors là, j'ai aucun problème à dire ça, puisqu'on sait très bien que... Alors, j'ai plus l'année en tête, mais on avait fait les calculs, on était à 0,450 d'augmentation des frais de la santé à Genève, et on s'est retrouvé avec 7% d'augmentation des primes. Donc, ça n'avait absolument rien à voir l'un avec l'autre. Donc, de mon point de vue, oui, on peut dire qu'il y a véritablement un problème quant à l'utilisation des chiffres et la façon dont ils sont présentés.
Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que finalement, on a aussi le sentiment que le Conseil fédéral a un peu abandonné les choses. Hein. On voit Alain Berset, qui est ministre socialiste de l'Intérieur en Suisse, on ne sait pas vraiment, en fait. On a l'impression que quand les assureurs annoncent une hausse importante, bah lui, de toute façon, au travers de l'Office fédéral de la santé, il peut simplement... augmenter l'appréciation des assureurs, mais il ne peut pas la réduire s'il la trouve trop haute. Il ne manque pas des mécanismes aussi de contrôle de la part des autorités là-dessus ?
Je veux dire, on a délégué la gestion de notre santé finalement à des boîtes privées. Mais l'avantage, c'est que c'est censé être plus économique. Alors, on peut en douter vu les résultats, mais OK, on fait comme ça. Mais de l'autre côté, on a quand même l'État. L'État a quand même le droit de contraindre ses mandataires à un minimum d'efficience, à un minimum de transparence, à un minimum de résultats. Maintenant, je pense aussi qu'on est arrivé à un tel point de rapport et de relation avec les caisses maladies, et il y a un tel manque de confiance, qu'on n'est plus non plus prêt à admettre qu'il y a un certain nombre de choses qui font juste, qu'on a quand même un système de santé qui est bon, qu'on a quand même peu... Alors, les gens ont des difficultés à payer leurs caisses, mais globalement, ils sont aidés pour le faire pour ceux qui vraiment sont dans la difficulté. Et puis de l'autre côté, c'est finalement toujours la classe moyenne inférieure qui voit systématiquement restreindre l'argent libre, qui n'a droit à aucune aide, et puis qui de l'autre côté, c'est eux qui véritablement sont impactés. Mais on voit bien que c'est pas que eux qui râlent sur les primes de caisse maladie. Vous avez des gens dont les primes sont payées par l'État et qui trouvent ça abominable que ce soit si cher, alors que c'est d'autres qui les payent pour eux. Vous avez des gens qui ont des moyens assez importants et puis qui ont aucun problème à payer la meilleure caisse maladie qu'ils peuvent avoir, mais eux non plus ne sont pas contents de payer ces primes-là parce qu'ils estiment que c'est trop, et à mon avis, ils ont raison d'estimer que c'est trop. Donc voilà, je veux dire, je ne pense pas que le système soit mauvais, je pense que de nouveau, on a, bien que dans la pratique il le soit devenu, je pense juste que de nouveau, on a la mauvaise habitude en Suisse de ne pas être assez intransigeant sur nos systèmes de contrôle. Si vous voulez qu'une loi fonctionne, elle ne fonctionnera pas si vous n'avez pas mis des moyens de contrôle. Alors, ça peut être désagréable parce que ça a un petit côté policier. Du coup, peut-être que je rejoins un peu mon parti sur cet aspect-là. Mais personnellement, je pense qu'il nous faut du contrôle. Si vous prenez la loi sur les taxis à Genève, la loi Schpuri, elle aurait été fonctionnelle si vous avez mis les contrôles en place.
Thomas Blaisy, merci pour cet entretien. Nous allons refaire une petite pause musicale. Nous revenons dans quelques instants.
But always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. Where I give it all up for you. I have
'cause the writing's on the wall. A million stars of glass that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be
Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue sur, dans Parole publique. Je suis toujours avec Thomas Blaisy, député UDC Genevois et pharmacien. Thomas Blaisy, avant de changer de sujet et de parler un peu moins de politique, il y a l'année prochaine les élections municipales en ville de Genève, notamment, dans tout le canton en fait, et vous y étiez candidat aux élections municipales de 2015, sauf erreur. Est-ce que vous allez remettre ça pour l'exécutif ou c'est définitif, vous arrêtez la politique municipale ?
Arrêter la politique municipale, je sais pas. J'ai été candidat en 2013 comme conseiller municipal, j'ai été élu. J'ai été candidat administratif et comme conseiller municipal en 2015. J'ai échoué à l'administratif et puis j'ai été élu comme conseiller municipal. Mais non, j'aime beaucoup la politique municipale. Mais honnêtement, la campagne pour le poste de conseiller administratif en ville de Genève, ça a été une des campagnes les plus difficiles. Ça a été probablement la campagne la plus difficile que j'ai faite. C'est celle que j'ai trouvée la plus prenante, la plus exigeante et la plus difficile. Parce que c'est véritablement une campagne où vous devez aller voir en permanence sur le terrain. Elle est moins bien relayée en plus que les autres campagnes, donc vous avez il y a quand même moins de médias. Il y a souvent des élections qui se passent en même temps. C'est pas forcément les
45 communes, quoi.
Ouais, celle-là, j'ai trouvé que c'est une élection très compliquée. J'ai trouvé qu'elle était très difficile. J'étais content finalement de mes résultats au deuxième tour et déçu par mes résultats au premier tour. Il y avait beaucoup à apprendre. C'était très intéressant. J'ai rencontré plein de gens, mais non, je pense qu'on a plusieurs candidats qui ont envie d'y aller. J'ai eu la chance et l'occasion de le faire. Je pense qu'il faut laisser la chance à d'autres.
Et là, vous pensez par exemple que votre nouveau venu du PLR, enfin ancien PLR, Vincent Chalard, pourrait être un candidat crédible pour le conseil administratif ?
Écoutez, je ne pense pas pouvoir parler à la place des personnes qui vont s'annoncer, qui sont en train de regarder avec eux-mêmes, avec leur famille, et puis avec leur intérêt, et puis leur ambition politique, ce qu'ils souhaitent faire. Moi, en 2015, j'ai souhaité le faire, ça m'intéressait, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais je peux pas parler pour d'autres, donc je sais qu'il y a une ou deux personnes qui sont intéressées. Pour Vincent, j'ai pas eu du tout, pour l'instant, l'occasion d'échanger avec lui, donc... Voilà, je voudrais pas dire non si finalement il y pense et oui s'il y pense pas. Pour l'instant, on n'a pas pris de décision au sein du parti sur nos candidats.
Parce que vous êtes plus au conseil municipal de la ville de Genève. Hein.
Non.
Vous avez arrêté parce que avec vos activités de député, c'était un peu compliqué aussi de tout gérer, plus la pharmacie.
Bah, disons que le double mandat a été interdit chez nous à partir de la fin de mon premier mandat au municipal. Donc quand j'ai eu mon mandat au Grand Conseil, il y avait une incompatibilité entre mon mandat municipal et mon mandat au cantonal. Et donc du coup, j'ai arrêté d'être conseiller municipal pour devenir député. Et ce qui a permis, en fait, au Vienne ensuite de prendre la place de... Je pense qu'il ne faut pas truster toutes les places, en fait, dans un parti. Quand vous avez la chance d'avoir deux sièges, à un moment donné, il est raisonnable de choisir, d'une part, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, vous risquez, en fait, d'être payé par vos concitoyens à faire un travail que vous ne pouvez pas accomplir. En plus, vous pouvez vous retrouver dans des commissions au niveau cantonal qui touchent à des sujets municipaux que vous avez traités dans d'autres commissions, puis avec une double confidentialité. Enfin, ça vous met rapidement dans des positions intenables. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt intellectuel pour certains, un intérêt financier pour d'autres, mais je pense que typiquement la démocratie suisse se porte mieux s'il n'y a pas assez double mandat.
Et en termes de durée aussi, parce qu'il y a des gens qui siègent longtemps, on va dire, et qui se représentent souvent à différentes fonctions, pas forcément dans les mêmes parlements, mais là aussi il y aurait quelque chose à faire. Enfin, les gens doivent aussi savoir céder leur place.
Bon, alors le terme peu amical en politique, c'est les alimentaires. C'est-à-dire, il y a des personnes en politique qui ne vivent que de la politique. Soit parce qu'ils peuvent se le permettre financièrement, soit parce que, bah, malheureusement, dans leur chemin de vie, ils ont perdu leur travail et finalement, la politique devient leur premier revenu. Donc, pour ces personnes-là, la politique devient finalement leur travail. J'ai rien contre ces personnes du tout, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on a conçu notre système politique. On a conçu notre système politique avec des exécutifs extrêmement forts, avec des législatives composées essentiellement de miliciens, donc des gens qui font un travail tous les jours, qui doivent assurer leurs revenus pour faire vivre leur famille. Et puis le temps qu'ils consacrent à la politique, ils reçoivent un défraiement qui est considéré par certains trop grand et par d'autres pas assez grand. Donc ça dépend un peu d'où on part. Donc je pense que c'est juste cote mal taillée par rapport aux revenus des uns et des autres. Mais notre système est prévu ou conçu pour que les gens n'aient pas besoin de la politique pour vivre, ce qui leur permet d'avoir une indépendance par rapport aux sujets qu'ils traitent, qu'ils touchent, auxquels ils réfléchissent, ou aux processus qu'ils cherchent à améliorer, ou aux dysfonctionnements qu'ils veulent dénoncer. Parce que finalement, ce n'est pas essentiel pour eux. Ils ont un regard qui peut être plus neutre parce que c'est pas leur vie. Leur vie, c'est leur famille, leur profession. Et finalement, la politique est une sorte d'à côté d'hygiène intellectuelle, de passion. Ça peut être plein de choses. Mais quand ça devient le revenu, je pense que ça change complètement les équilibres. C'est plus la même chose. Et on peut craindre une perte d'indépendance ou une plus grande susceptibilité à l'influence extérieure aussi.
Mais pourtant, il y a des gens qui sont engagés en politique, notamment à Genève, qui ont des revenus suffisants, indépendamment de la politique, et qui s'accrochent à la politique. Donc, ce n'est pas forcément l'argent le problème. Peut-être qu'il y a aussi une certaine reconnaissance, un besoin de compter, un besoin de faire des choses. Ce n'est pas forcément négatif non plus de s'accrocher à la politique. Donc, est-ce que là, c'est vous qui êtes pharmacien, par exemple, est-ce que le montant que vous touchez en indemnité parlementaire couvre les dépenses que vous investissez pour aller siéger au Parlement? Est-ce que vous êtes bien couvert de ce point de vue-là?
Je vous réponds à ça tout de suite, mais oui, alors il n'y a pas que l'aspect financier, c'est pas mal de s'accrocher en politique, mais sur le terme accroché, là, le pharmacien réagit, il y a aussi un côté, il y a un côté drogue à la politique, il y a un côté accro. Quand vous avez commencé à en faire, c'est vrai.
C'est votre cas. Moi,
je pense qu'à un moment donné, oui, vous êtes accro, parce que je veux dire, franchement, alors on va arriver à mes revenus. Donc à peu près, ça fait 10 ans que je fais de la politique depuis 2008, et je dirais qu'en moyenne, j'ai touché 15 à 16 000 francs par année de la politique. Certaines années un peu plus, certaines années un peu moins. Certaines années, j'ai un résultat positif par rapport au coût que ça engendre, c'est-à-dire de remplacement, puis d'autres années, il y a une perte. C'est assez équilibré, en fait, en ce qui me concerne. C'est assez équilibré. Mais en tout cas, la politique m'a clairement pas enrichi, et c'est pas le but de la politique au niveau des miliciens et puis des députés de s'en enrichir. Et je crois que ça, c'est effectivement la grande force de notre système.
Mais pour qu'on comprenne bien, pour que les auditeurs comprennent bien, vous avez touché à peu près 15 000 francs. Ça, c'est avec les déductions que vous avez données à votre parti, parce que...
Alors, si on veut être précis, je touchais à peu près 14 à 15 000 francs quand j'étais à la Constituante, qui était exonéré d'impôts à l'époque. Mmh. Ensuite, je suis arrivé au conseil municipal et là, je touchais à peu près, je pense, peut-être à peu près 16 000, je pense, qui étaient aussi exonérés pour mon premier mandat. Donc là, c'est vrai qu'il y avait un revenu parce que l'exonération faisait que, d'une part, je payais moins d'impôts et puis donc, du coup, ça augmentait l'aspect défraiement. Ensuite, on les a déclarés, donc on les a intégrés au revenu, mais dans le même temps, ils ont aussi augmenté les jetons de présence. Donc, je sais pas si véritablement ça a changé énormément les choses, mais ça a impacté le reste de vos revenus, par contre, puisque l'enveloppe fiscale est globale. Donc, globalement, à la Constituante, 14, au Conseil municipal, c'est à peu près 16, et au Grand Conseil, ça doit être à peu près 17 ou 18, c'est un petit peu plus. Mais voilà, mais moi, je fais partie des députés dans mon groupe j'ai toujours été dans ceux qui touchait le moins de jetons de présence, soit le deuxième ou troisième. Mais j'ai jamais eu beaucoup de commissions parce que mon temps professionnel m'interdit de trop faire de politique.
Oui, parce que moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait monter jusqu'à 35 000 francs en fonction de ces commissions.
Alors, il y a des commissions qui siègent énormément, donc qui rapportent beaucoup, donc elles sont souvent plus désirées par les membres de tous les partis politiques d'ailleurs. Et puis il y a des commissions qui siègent beaucoup moins, donc qui du coup rapportent moins de jetons de présence. Mais dans mon cas de figure, je fais autant de politique que je peux, mais je pourrais pas en faire plus. Je pourrais pas prendre des plus grosses commissions ou vouloir augmenter mon revenu politique dans mon cas de figure, c'est juste impossible parce que je suis indépendant et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un équilibre entre ce que je dépense d'un côté et ce que je reçois de l'autre pour faire cette activité.
Et encore toujours sur cette question, finalement, est-ce que là, les jetons de présence des députés sont utilisés à bon escient de manière générale? Enfin, est-ce que les partis en fait touchent en fonction de leur politique, touchent des jetons de présence, prennent des jetons de présence à leurs députés, une partie en tout cas. À l'UDC, ça fonctionne comment ?
À l'UDC, ça a toujours été très simple. On verse le tiers, je crois que c'est le tiers de tiers des jetons de présence est versé directement à l'UDC. C'est d'autant plus simple qu'en fait, on donne les ordres directement au secrétaire du Grand Conseil ou du Conseil municipal. Et ce qui fait que quand on touche notre fiche de salaire, c'est que la partie qu'on touche nous. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair d'un point de vue déclaration que commencer à déduire un truc ou déduire un autre.
Et là, ça vous pose pas de problème finalement qu'on finance en partie avec de l'argent public les partis, mais en fonction du fonctionnement de chacun et du nombre de députés? Est-ce que là on n'aurait pas quelque chose à faire aussi en matière de transparence du financement des partis, mais aussi par cohérence à proposer un financement public, et pendant ce temps-là les partis ne peuvent plus toucher les jetons de présence de leurs parlementaires? Ça vous semble pas une bonne idée, ça?
Non. Moi, je trouve que le fait que les parlementaires reversent des jetons de présence à leur parti, c'est très bien parce que on sait ce qu'on verse comme jetons de présence aux députés. Donc, par définition, l'État, c'est exactement ce que le parti politique touche. Et puis, si on veut savoir ce qui est bien et pas bien, ben, moi, je trouve que le parti politique auquel j'appartiens prenne 30% de mes jetons de présence et que l'État puisse le savoir, c'est très bien. Qu'il existe des comptes occultes avec des fortunes qui traînent pour favoriser un candidat par rapport à un autre, ça, je trouve ça pas bien. Voilà.
Vous parlez de l'affaire Model, hein ?
Non, je parle de... Oui, enfin oui, en l'occurrence, ça touche à l'affaire Model, bien sûr. Mais le compte Fazi Favon n'était pas que l'affaire Model. Ça date de bien avant l'affaire Model et ça a certainement servi et rendu service à plein de personnes. Mais en l'occurrence, la population, elle, ne sait pas qui a bénéficié de ces fonds supplémentaires pour pouvoir...
À l'UDC, il n'y a pas de caisse noire, donc on trouvera jamais une caisse noire.
En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà.
Okay.
Voilà.
C'est noté en tout cas.
Je suis prêt à dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a en tout cas certainement pas à ma connaissance. Et je pense très certainement que c'est pas le genre. En tout cas, l'UDC Genève, c'est pas le genre. Et puis, si on avait une caisse noire, je pense qu'en ce moment, avec les élections, on serait content d'avoir un peu plus de sous parce que c'est pas évident de gérer parce que vous avez la campagne nationale qui arrive, il y aura la municipale qui va enchaîner.
Il y a eu les élections cantonales l'année dernière en plus.
Ouais, nous on est plutôt un parti qui se construit par le national et puis quand on arrive au cantonal il en reste et puis quand on arrive au municipal c'est toujours un peu plus compliqué. On n'a pas toujours, on a la chance d'avoir quelques mécènes, mais on n'a pas le volume de mécènes et la générosité des mécènes et puis ces comptes récipiendaires que peut avoir des partis comme le PLR. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis je crois qu'à Genève, on commence vraiment à avoir montré qu'on avait vraiment un rôle en tant que parti d'opposition pour montrer en fait des dysfonctionnements où tous les partis gouvernementaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont finalement d'accord de regarder ailleurs parce que ça arrange la politique du gouvernement, et puis que finalement de les dénoncer, c'est un peu être le grain de sable. Mais ça, je crois qu'on commence à avoir une vraie compétence en la matière. Je crois qu'on a dénoncé des affaires assez importantes à Genève. Je pense que ça a été source d'amélioration pour la population genevoise. Je pense que ça a été source d'un plus grand désir de transparence aussi, parce que plus vous donnez de transparence aux personnes, plus elles s'intéressent à savoir. Et à titre personnel, j'ai effectivement évolué dans ma position sur certaines choses. Typiquement, avant, je pensais qu'il était préférable que les commissions parlementaires soient confidentielles par rapport aux témoignages qu'on recevait. Au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'en dehors de certains témoignages sensibles, je pense que ces commissions parlementaires devraient être publiques. Finalement, ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis en plus, le fait que ce soit public, ça permettrait probablement une meilleure tenue des débats dans certains cas.
Thomas Blaisier, on pourrait continuer ce débat sur la publicité des commissions pendant des heures, parce qu'il est passionnant. J'aimerais quand même vous poser une question par rapport à la pharmacie. Il y a eu pour vous un moment dans votre carrière politique, ça a été votre combat contre la création de cette pharmacie publique au HUG, qui est ouverte, sauf erreur, 24 heures sur 24, et qui pourvoit maintenant à côté des HUG des médicaments en tout temps. Quel bilan maintenant vous en tirez depuis qu'elle est en place, cette pharmacie ? Est-ce que ça a grevé vos revenus comme vous l'escomptiez, ou est-ce que finalement vous êtes un peu moins virulent vis-à-vis de cette pharmacie ?
Alors, j'avais toujours dit que je représentais les pharmaciens indépendants, et j'avais toujours dit que ma propre pharmacie avait a priori peu de risques d'être touchée. Donc ça, je peux vous confirmer que ma pharmacie n'a pas été touchée. Mon chiffre d'affaires était le même avant et après Pharma 24. Maintenant,
votre pharmacie est située à Champelle. Hein.
Disons que je suis suffisamment loin pour pas être impacté directement par Pharma 24. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'avant, on faisait les gardes, et pendant ces gardes, souvent, ça permettait en fait aux petites pharmacies de quartier de juste passer des chiffres rouges aux chiffres noirs en fin d'année. Maintenant, Pharma 24 ayant pris l'intégralité de la garde. Là, je suis impacté aussi, c'est-à-dire qu'avant le dimanche de garde, j'avais à peu près 350 à 400 clients, ce qui représente presque 2 semaines de travail pour une pharmacie de ma petite taille, si j'ose dire. Et aujourd'hui, je suis passé de 350 à 400 clients le dimanche de garde à, si je fais ce dimanche de garde encore, à 20 ou 30 clients. Voilà.
Donc ça, c'est un problème. En fait, du coup, vous n'avez plus intérêt à faire de garde.
Donc, du coup, les pharmaciens se dissocie de la garde, ce qui aboutit au fait que finalement Pharma 24 a des problèmes d'attente énormes, que la population est obligée de tout revenir au centre pour obtenir des médicaments le week-end, alors qu'avant on avait quand même 2 points sur chaque rive à l'origine. Donc on a cessé de réduire pour arriver à un seul endroit. Ils ont eu des difficultés de stock, et puis typiquement, vous voyez, je suis pas d'accord avec le principe. Je suis d'accord avec le principe d'une pharmacie centralisée au HUG, et puis qui peut en fait délivrer aux patients les médicaments pour des raisons pratiques, parce qu'évidemment que c'est quelque chose de pratique. Maintenant, la façon dont ça a été fait à Lausanne, au CHUV, est beaucoup plus pertinente et a beaucoup moins prétérité les pharmaciens que la manière dont ça s'est fait à Genève. Mais à Genève, on cherchait des revenus pour l'hôpital cantonal. Donc à un moment donné, on produit des ordonnances. Finalement, pourquoi ce ne serait pas nous qui gagnerions l'argent ? Et finalement, c'est qu'une affaire mercantile. Mais le souci, c'est que comme on essaie de maintenir les personnes âgées à domicile, quand ces personnes âgées doivent aller à Pharma 24, elles retournent à l'hôpital, alors que quand elles ont des pharmacies de quartier en bas de chez elles, c'est sûr que ça simplifie un peu le réseau.
Merci Thomas Blaisier. Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Donc je vous remercie d'être venu.
Merci pour votre invitation, Grégoire Barbet.
Et puis, moi je vous annonce que la semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas d'émission. J'ai un empêchement. Mais par contre, on reviendra d'ici 2 semaines avec un nouvel invité. Je n'ai pas encore trouvé, mais ça viendra. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à tout bientôt. Au revoir.
Vous êtes branché sur Radio Tonique.
Et il est pile 20h.
Écoutez ça, tube sur Tonique.